Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous vraiment heureux? Menez-vous une vie joyeuse? Certes, nous avons tous des hauts et des bas dans la vie. Nous ne pouvons pas toujours sourire, mais nous pouvons avoir le sourire dans nos cœurs. Autrement dit, vous devez connaître le but de la vie, savoir pourquoi vous êtes et tolérer les circonstances, même si ces circonstances sont contre vous. Il y a une différence. Je vous l'ai dit la dernière fois, et je le dis souvent, une différence entre le bonheur et la joie. Le bonheur, c'est tangible, ce qu'on touche, ce qu'on a, ce qu'on veut avoir sûr en ce qui concerne le plan de la vie terrestre. Mais la joie transcende tout ça. La joie est un don spirituel. Voilà pourquoi, lorsque je vous pose la question en disant « Êtes-vous heureux ?», j'entends « Avez-vous de la joie dans votre cœur ?» Dans mon dernier sermon, je vous ai parlé du bonheur. Lorsque Dieu parle du bonheur, il parle de la joie spirituelle. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, comme je vous ai montré la dernière fois, Dieu dit « heureux l'homme ». Heureux dans le sens spirituel même, physique, mais surtout spirituel. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs versets dans la Bible où Dieu explique ce que c'est qu'être heureux. De son point de vue, heureux l'homme. Ensuite, il précise. Nous avons vu plusieurs versets bibliques, dont la plupart sont dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les proverbes et ailleurs, et aussi quelques-uns dans le Nouveau Testament, où Dieu précise heureux l'homme. Certes, il y a des répétitions, mais ces répétitions sont utiles pour nous. Comme un enfant qui commet des fautes, son père le corrige. De la même façon, Dieu nous corrige lorsque nous faisons des fautes. Et dans la Bible, il répète plusieurs fois la chose. Écoutez, vous savez fort bien, vous ne pouvez pas dire à un enfant une chose et savoir que l'enfant se rappellera. En tant que parents, nous répétons jusqu'à ce que l'enfant saisisse et fasse des efforts. De la même façon, Dieu répète ces instructions dans la Bible, afin que nous puissions comprendre et faire des efforts. Voilà, une fois que ceci est précisé, allons et continuons à voir ce que Dieu appelle par « heureux l'homme ». Je vais reprendre le psaume 89, verset 16. Ici, Dieu groupe tout d'un coup, non pas l'homme, il parle du peuple. Voyez-vous, en tant que êtres humains, nous sommes certes des individus, mais en tant que nation, nous devons être la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Si nous gardons les commandements de Dieu, si nous faisons ce qu'il nous dit, nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple, voyez-vous, maintenant c'est un groupe, ce n'est pas un seul individu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Tiens, mais de quoi il s'agit ? De quoi s'agit-il, ce son de trompette? Automatiquement, Dieu entre ici déjà dans la Bible même, parce que le son de la trompette, en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne la vérité, c'est le retour du Christ. Nous qui sommes dans l'Église, nous savons que le Christ viendra. Le Christ viendra au son de la trompette. Et là, automatiquement, le plan divin s'est révélé dans les fêtes de l'Éternel. Nous avons les fêtes de l'Éternel dans Lévitique 23, dont l'une des fêtes, c'est la fête des trompettes, qui représente le retour du Christ sur cette terre. Voilà ici, Dieu révèle que son peuple, son Église, nous qui respectons ses commandements, nous sommes heureux lorsque nous connaissons le son de la trompette. Regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs. Les conditions mondiales sont tellement mauvaises que nous devons vraiment avoir les yeux sur le Christ, sur son retour, et le son de la trompette est notre garantie que Dieu tiendra sa parole. Lévitique 23, je vous ai parlé plusieurs fois par le passé, liste, je dirais, toutes les fêtes de l'Éternel. Lévitique 23 parle du sabbat. Nous qui sommes dans l'Église, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, nous devons savoir que les commandements de Dieu, les fêtes, les sabbats doivent être le bagage, pour ainsi dire, de nos connaissances, afin que nous puissions faire notre part, respecter ces jours saints, et que Dieu puisse vraiment dire, vous êtes mon peuple. Pouvez-vous vraiment dire que vous marchez avec Dieu? Pour être dans l'Église de Dieu, pour être peuple de Dieu, vous devez marcher avec Dieu. Continuons. Je vais aller un peu plus vite parce que j'ai tellement de matériel ici que je ne pourrais pas terminer ce sermon, à moins que je me dépêche. Psaume 94, verset 12. Là, c'est une autre vérité qui se révèle. Voyez-vous, en tant qu'humain, nous n'aimons pas être châtiés. Et pourtant, Dieu nous châtie. Psaume 94, verset 12, nous lisons, « Heureux l'homme, tiens, heureux l'homme, que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Ça, c'est une révélation fantastique. Lorsque vous châtiez un enfant, lorsque vous châtiez quelqu'un, mettons, si vous avez l'autorité, vous devez expliquer pourquoi vous châtiez. Lorsque, je répète, Dieu nous châtie, il nous révèle ses instructions, il nous révèle ses lois, et la façon dont Dieu nous châtie est différente, d'une façon générale, de la façon dont les hommes se châtient. Dieu est toute bonté. Lorsque vous infligez châtiment à quelqu'un, soyez sûr que vos motifs sont justes, vos intentions sont bonnes, et que vous vous comportez en tant que véritablement chrétien. Il ne faut jamais châtier dans une colère. Il ne faut jamais corriger quelqu'un en présence de quelqu'un d'autre. J'ai souvent dit, et je répète, lorsque vous avez deux enfants, des frères ou je ne sais pas quoi, lorsque vous voulez reprendre un enfant, ne le reprenez pas en présence de l'autre. Vous créez une dispute entre les deux. Châtiez un individu seul. Vous verrez la différence. Ici, donc, Dieu vous dit que Dieu nous châtie. Mais comment est-ce qu'il nous châtie? Continuons. Dans Hébreux chapitre 12, parce que je répète ce que c'est qu'être châtié par Dieu, Dieu nous corrige en tant que ses fils, ses enfants. Notez-le. Hébreux 12, verset 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Regardez voir ça. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Frapper de la verge, ce n'est pas avec colère, pas du tout. Nous avons tous parfois, je répète, mes frères et mes sœurs, des hauts et des bas. Nous avons des moments où nous devons vraiment être conscients de la présence de Dieu parce que la vie devient difficile. Mais lorsque vous savez que Dieu vous aime, lorsque vous savez que Dieu est avec vous, lorsque vous avez un châtiment que vous reconnaissez comme venant de Dieu, appréciez-le. Car Dieu vous châtie afin que nous puissions croître dans la bonne voie. Notez-le. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, supportez, verset 7, Hébreux 12, supportez le châtiment, dit-il, comme des fils que Dieu vous traite. Car chaque parent doit châtier ses enfants ou leurs enfants de la bonne façon, avec amour, avec patience. Et je continue, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous savez, ça me rappelle une histoire. Il y a longtemps, j'étais en France, et une femme qui m'avait entendu à la radio m'a dit, « Monsieur Appartient, il faut que je vous parle. » Et elle ne connaissait pas grand-chose de la Bible. Elle dit, « Monsieur Appartient, j'ai un grand problème. Mon fils est en prison. » Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Et pourtant, de tel, vous savez, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait tout pour aider mon fils. J'ai donné tout ce qu'il voulait. Elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Je n'ai jamais refusé quoi que ce soit à mon fils. Regardez voir ça. Je n'ai jamais châtié mon fils. J'ai dit, madame, voilà la difficulté. Vous auriez dû châtiez votre fils. Vous auriez dû ne pas lui donner tout ce qu'il voulait. Cet homme pleurait, elle a raison, mais voyez-vous, la plupart du temps, nous faisons des fautes pareilles. Si vous aimez quelqu'un, un enfant surtout, châtiez-le comme Dieu le châtie ou nous châtie tous. Ensuite, verset 9, toujours Hébreux 12, « D'ailleurs, il dit, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous avons respecté, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à Dieu ?» Voilà, des idées qui sont formidables. Continuons. Psaume 112, verset 1. Dans la Bible, vous aurez assez souvent l'expression « louer l'Éternel ». C'est quoi louer l'Éternel? Qui sommes-nous, nous autres, pour louer l'Éternel? Louer l'Éternel signifie « soyez reconnaissants à Dieu, appréciez ce que vous avez ». Donc, psaume 112, verset 1, commence par « louer l'Éternel ». Ensuite, « heureux l'homme ». Voyez-vous, ça se suit. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Nous avons déjà vu la dernière fois que craindre de l'Éternel signifie le respecter, l'honorer, faire sa volonté. Vous trouvez plaisir, mes frères et mes sœurs, à respecter Dieu, à faire ce qu'il vous commande de faire, à obéir à ses commandements. Regardez ce verset, psaume 112, verset 1. « Heureux l'homme qui connaît, qui craint l'Éternel, qui trouve, regardez-moi ça, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Là, c'est encore un autre secret. Ne faites pas les choses parce que vous devez faire les choses, faites les choses parce que vous voulez faire les choses. Autrement dit, respectez Dieu, observez ses commandements, non pas parce que vous êtes obligé, mais parce que vous voulez. Il y a une grande différence. La signification, je répète, de respecter, de craindre, c'est toujours dans la Bible exprimé de la même façon, mais faites ceci avec joie. Vous verrez la différence. Vous respecterez non pas seulement Dieu avec plaisir, mais ce faisant, vous vous éloignerez de la tentation satanique. Si vous obéissez à Dieu, vous êtes heureux. Si au contraire, vous vous détournez de lui, vous tomberez dans le malheur. Continuons. Psaume 112. Je vais un peu vite, mais je veux que vous compreniez. Il y a des versets qui ont besoin d'être expliqués plus clairement. Psaume 112, verset 5. Heureux l'homme, je vous dis, c'est toujours heureux l'homme. Heureux l'homme du point de vue divin. Autrement dit, c'est la joie dont je vous parle. Heureux l'homme, quoi ? Qui exerce la miséricorde. Regardez voir cette instruction. La miséricorde, c'est l'une des garanties pour notre salut. Eh oui, parce que si vous n'avez pas de la miséricorde vous-même, Dieu n'aura pas de la miséricorde pour vous. Là, je répète, c'est une garantie absolue. La miséricorde vient de Dieu. C'est un sentiment extrêmement important. Un sentiment, je dirais, non pas humain, mais divin. Dans Matthieu chapitre 6, le Christ nous a donné ce qu'on appelle la prière modèle. C'est quoi la prière modèle? Parce que la plupart des gens et nous autres, nous ne savons pas comment prier. Vous ne savez pas comment prier. Moi, je ne sais pas comment prier. Il n'y a que le Christ qui sache comment prier. Voilà pourquoi nous devons étudier la Bible et voir comment le Christ a prié et comment, à travers la Bible, ce que Dieu appelle, on priait. Et lorsque les disciples même du Christ, les apôtres, étaient avec lui, ils ont dit, écoute, dis-nous comment prier, enseigne-nous à prier. Et dans Matthieu 6, précisément, vous trouvez un modèle de prière que le Christ a donné. J'ai parlé par le passé de cette prière modèle. Mais prenons ce verset qui nous intéresse ici. Dieu a dit, le Christ a dit dans Matthieu 6, verset 12, pardonne-nous nos offenses. Voilà, vous faites maintenant une condition. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez-vous, c'est un contrat. c'est un contrat que vous ne pouvez pas briser. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous pardonner vos péchés, vos offenses, à moins que vous-même, vous pardonniez aux autres et vous pardonniez les offenses des autres. Regardez voir, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est clair. Ensuite, le Christ va un peu plus loin, voyez-vous, il précise, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas vraiment hériter la vie éternelle. » Voilà pourquoi avoir de la miséricorde est indispensable pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Matthieu 5, verset 7. Ça, c'est une partie du sermon sur la montagne. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vous en parlerai, ou bien à une autre occasion. Regardez, Matthieu 5, verset 7. Heureux, ça commence, heureux qui ? Heureux les miséricordieux. Pourquoi ? Car ils obtiendront la miséricorde. Continuons. Psaume 127, versets 3 et 5. Là, je prends ces deux versets parce que ces deux versets nous disent ce que nous devons faire avant que Dieu dise « Heureux l'homme ». Notez-le. Psaume 127, versets 3 à 5. « Voici, dit-il, des fils ont un héritage de l'Éternel. » Les fils sont un héritage de l'Éternel. Intéressant. Certes, nous ne sommes pas tous bénis d'avoir un mariage ou bien d'avoir des enfants, mais si vous savez ce que c'est qu'une famille, vous savez ce que c'est qu'un héritage, Dieu ici nous dit que si nous avons une famille et nous sommes la famille divine, nous avons un héritage. C'est quoi cet héritage? Il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Avoir une famille heureuse, c'est fantastique, mais il faut y travailler. Continuons. Comme les flèches, dit-il, dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Autrement dit, il faut éduquer, il faut travailler. Avoir une famille n'est pas une chose facile. Il faut y travailler. Et lorsque nous nous mettons de nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, avec le respect que nous devons à Dieu, envers Dieu, et que nous enseignons à nos enfants comment obéir à Dieu, et comment nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous faisons la volonté de Dieu, maintenant que vous savez ça, regardez Dieu, ce que Dieu dit. Psaume 127, verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Autrement dit, qu'il pratique. Ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte, le Christ est là pour nous protéger, pour nous guider. Autrement dit, chaque fois que vous avez cette garantie absolue que Dieu est avec vous, vous devez toujours avoir dans l'esprit que Dieu veut que vous fassiez sa volonté, que vous le mettiez avant tout le monde, avant toute personne, et que vous lui donniez préférence en toute chose. Nous sommes l'héritage, nous autres, dans l'Église de Dieu. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non. Dieu nous a appelés pour une mission. Préparer le chemin du retour du Christ. Ce faisant, nous sommes une Église. Ce faisant, nous sommes un peuple. Ce faisant, nous sommes donc l'héritage de Dieu. Faisons notre travail avec force. La Bible parle souvent de guerre, de lutte. Non pas de la façon dont les gens, dont les hommes mènent une guerre, mais de la façon dont nous devons mettre notre cœur, notre force, faire notre mieux, nous y donner 100%. Continuons. Psaume 128, verset 1. C'est le cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Nous avons déjà vu ça par le passé. Autrement dit, craindre l'Éternel, je répète, c'est respecter, c'est obéir, c'est faire sa volonté. Donc, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ensuite, qui marche dans ses voies. Cela aussi, nous l'avons vu. Moïse a marché dans la voie de l'Éternel. Noé a marché. Les apôtres ont marché. Les prophètes ont marché. Vous, en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, vous devez marcher selon la voie de l'Éternel. Continuons. 144, psaume 144, verset 15. Heureux le peuple. Voyez-vous, parfois c'est heureux l'homme, parfois c'est heureux le peuple. Ceux qui sont, qui font partie du peuple de Dieu, sont ceux, je répète encore une fois, qui se repentent de leurs péchés, qui reçoivent le Saint-Esprit après le baptême par immersion, et ceux qui suivent la volonté de Dieu en toutes choses. Souvent, mes frères et mes sœurs, dans la vie, il y aura des occasions où vous aurez le choix entre votre désir et ce que Dieu vous dit. C'est un choix difficile. Parfois, c'est un choix, je dirais, extrêmement difficile parce que de tout votre cœur, vous désirez quelque chose et vous voyez que ce quelque chose ne serait pas conforme à la volonté divine. Alors, quel sera votre choix? Ce n'est pas facile. Vous en savez quelque chose. Parfois, il faut vraiment dire, écoute Dieu, je sais que tu m'aimes, je sais que ce que tu veux, c'est pour mon bien, je ferai ta volonté et non pas la mienne. Là, vous êtes sur le bon chemin. Là, vous êtes heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Psaume 144, il est question ici de David. Mais regardez encore une fois ce que David dit. Ce que la Bible dit. Mes frères et mes sœurs, je vous ai posé souvent la question, qui êtes-vous? Qui suis-je? Que sommes-nous en tant qu'êtres humains? Quoi? La Bible nous appelle poussière. La Bible nous appelle comme des feuilles qui meurent. Comme une fleur qui se flétrit le lendemain. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes rien. Dieu est tout, nous ne sommes rien. Psaume 144, verset 3. David demande, l'Éternel, qu'est-ce que l'homme? Voyez-vous, ce sont des questions que nos ancêtres ont posées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 4, l'homme est semblable à un souffle. Voilà ce que nous sommes, un souffle. C'est quoi un souffle? Voilà un souffle, c'est déjà passé, c'est fini. Voilà notre durée, voilà notre existence. Il dit, un souffle. Ces jours sont comme l'ombre qui passe. Vous avez jamais vu une ombre? Ça vient, ça disparaît. Voilà ce que nous sommes. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, verset 12. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Ainsi de suite. Ensuite, verset 15, toujours psaume 144. Heureux le peuple. Voyez-vous, c'est intéressant parce que Dieu parle individuellement et collectivement. Individuellement, nous devons faire notre part, collectivement, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous devons vraiment unir nos forces, unir nos talents pour accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Voilà pourquoi Dieu dit, verset 15, « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. » Chaque fois que je lis ça, vous savez, j'ai des émotions très fortes dans mon cœur. Regardez voir. Dieu dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Rappelez-vous cette phrase. Heureux le peuple, quelle que soit votre nationalité, quel que soit le pays où vous habitez. Heureux le peuple dont le Dieu est l'Éternel ou l'Éternel est le Dieu. Il n'en est pas ainsi, malheureusement, aujourd'hui. Il y a tellement de croyances, tellement de religions, et tout le monde pense avoir raison. Tout le monde pense, comment dirais-je, honorer Dieu, le Dieu de la Bible. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi y aurait-il tant de religions alors qu'il y a un seul Dieu? Pourquoi y aurait-il tant de doctrines alors que le Christ nous a donné clairement dans la Bible des doctrines divine. Voyez-vous, la vérité est simple. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul salut. Comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, par exemple. toutes les religions de ce monde ne peuvent pas être dans la bonne voie, à moins que ces religions soient fondées sur les enseignements bibliques. Auquel cas, il n'y aurait pas des religions, il y aurait une seule religion. Voilà pourquoi Dieu dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Mes frères et mes sœurs, quels que soient vos penchants, quels que soient vos désirs, vos plaisirs, quel que soit votre raisonnement, ayez une chose en tête. Dieu sait les choses mieux que vous. Dieu vous aime plus que vous ne croyez. Dieu connaît l'avenir, vous ne connaissez pas. Donc, soumettez-vous à Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez savoir que tout ce que Dieu dit est pour votre bien. Voilà pourquoi vous êtes son peuple. Je répète, j'aurais dû prendre plus de temps, mais je veux que vous puissiez connaître la racine de ce que je vous dis ici, la base, le fondement même. Nous sommes des fils spirituels de Dieu, nous autres, qui sommes dans l'Église, qui avons reçu son Saint-Esprit. C'est ici la signification « heureux le peuple, dont l'Éternel est le Dieu ». Vous savez, dans l'Ancien Testament, que beaucoup de gens rejettent aujourd'hui, dès le commencement, Dieu a toujours dit que vous êtes mon peuple. Au commencement, il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu qui était donné aux hommes, qui a été donné après la mort et la résurrection du Christ. Au commencement, dis-je, les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Donc, le peuple de Dieu, c'était ce que Dieu avait choisi. Et il a commencé par Israël en tant que nation. Israël a reçu ce que nous recevons aujourd'hui, de par la Bible. Israël a reçu les commandements de Dieu, avait seulement la possibilité de les observer dans la lettre, parce que les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit. Pour pouvoir obéir à Dieu dans l'esprit de la loi, il faut avoir l'esprit de Dieu, c'est-à-dire être baptisé, s'être repenti, recevoir le Saint-Esprit. Mais même dans l'Ancien Testament, même les Israélites qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu avaient les mêmes commandements. Heureux l'homme, ou ce que nous devons faire. Notez-le. Deutéronome chapitre 33. Que tu es heureux, Israël. Mais vous, c'est la même chose. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Ici, Dieu prend Israélite, la nation qui s'est choisie. Que tu es heureux, dit-il, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Oui, Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte pour les sauver. Ils ne sont pas arrivés au but parce qu'ils n'ont pas vraiment obéi à Dieu. Il dit, l'Éternel, le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire, tes ennemis feront défaut devant toi, dit-il. Toujours Deutéronome 33, verset 9, tu les fouleras leur lieu élevé. Israël, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a pas observé les lois de Dieu. Ils avaient toutes les promesses que nous avons aujourd'hui. Ils avaient toutes les garanties. Mais non, ils se sont détournés de lui. Ils ont regardé les autres nations. Ils ont regardé la gloire humaine des autres nations. Ils voulaient avoir un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout perdu. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis. De la même façon, mes frères et mes sœurs, nous sommes aujourd'hui dans la même situation, sauf que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne la compréhension et de la lettre de la loi et de l'Esprit de la loi. Donc, comprenons par leur exemple, afin de ne pas tomber dans la même tentation. Faites confiance à Dieu, afin que vous puissiez vraiment faire partie de heureux l'homme qui fait la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'Israël s'est détourné de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté Dieu pour des idoles. Et comme Dieu avait dit, ils ont perdu tout. Leurs enfants, leurs fils, leurs garanties, tout ce que vous aviez. Ils sont devenus comme les autres nations, oui, mais ils sont tombés dans le malheur. Il en est de même en ce qui concerne pour nous tous. Vous avez le choix. Jérémie chapitre 7. toujours dans l'Ancien Testament, toujours heureux l'homme. Regardez ce qui est marqué. Dieu dit, mais voici, dit-il, l'ordre que je leur ai donné à l'ancien Israël. Il a dit, écoutez ma voix, Jérémie 7, 23. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Voilà une garantie. Voyez-vous, Dieu est simple. Les commandements de Dieu sont simples, sont justes, sont bons. C'est comme un père qui dit à son enfant, écoute, fais cela, tu seras protégé. Mais nous sommes tellement têtus, pour ainsi dire. Nous voulons faire notre volonté et nous nous laissons emporter par notre nature charnelle, par nos sentiments de convoitise. Et Satan est là pour nous aider à marcher dans cette voie de convoitise. Mais Dieu dit, écoutez, dit-il ma voix, et je serai votre Dieu. Jérémie 7, 23. Et vous serez mon peuple. Voilà comment être le peuple de Dieu. Comment être dans l'Église aujourd'hui. Marcher dans toutes les voies. Mais ça commence, c'est des répétitions utiles, indispensables même. Il dit, marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Pourquoi? Afin que vous soyez heureux. C'est clair, vous savez, ça se répète. C'est tellement beau quand on comprend. Et quand on ne comprend pas grand-chose, on dira, oh, ça ne m'intéresse pas. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut que vous soyez zélés. Que vous soyez vraiment faire tout pour plaire à Dieu et que si même nécessaire, donner votre vie pour Dieu. Votre vie céleste, c'est ce qui compte. Votre vie terrestre n'est rien. C'est comme une feuille qui meurt le lendemain, comme il vous dit dans la Bible. Maintenant, je vais m'arrêter ici, mais je vais quand même prendre deux ou trois versets dans les Proverbes, toujours avec heureux l'homme. Là encore, il y aura des répétitions, mais quand même, il y aura une révélation qui sera peut-être nouvelle. Proverbe, chapitre 3, verset 13. Ayez en tête une chose. Je répète, parfois, la répétition est nécessaire. Comme il y a une différence entre bonheur et joie, de même, il y a une différence entre intelligence et sagesse. Intelligence est basée sur ce que le cerveau humain peut acquérir. Notre intelligence dépend de nos cinq sens physiques. Et vous pouvez vous en servir, vous aurez beaucoup de compréhension, de connaissances. Mais l'intelligence est toujours fondée sur le monde tangible que vous pouvez acquérir. La sagesse est au-dessus. La sagesse est un don de Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ici, dans Proverbes chapitre 3, verset 13, il est clairement indiqué, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. » Il n'est pas question d'intelligence. L'intelligence est nécessaire, mais sagesse d'abord. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Autrement dit, vous avez besoin de votre intelligence pour comprendre, pour arriver à respecter et à obéir à Dieu. Ensuite, vous recevrez le Saint-Esprit qui vous accordera la sagesse. Ce Proverbe 3, 13 est très, très important. Je répète, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Où en êtes-vous? Dieu vous donne la compréhension. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Mais mettez avant tout Dieu, ses enseignements, ses demandes avant toute autre chose que vos besoins personnels. Prenez l'exemple de Salomon. Salomon était un roi et qui avait besoin de l'intelligence, certes, mais plus que ça, il avait besoin de sagesse pour gouverner le peuple de Dieu, un peuple têtu, obstiné. Alors, parce que les voies de Salomon ont plu à Dieu, Dieu lui a demandé une chose que moi, je voulais bien qu'il me demande un jour. Il dit à Salomon, demande ce que tu veux et il te sera accordé. Vous savez, quelle promesse! Le Créateur suprême dit à Salomon, demande ce que tu veux. Alors, Esprit Chanel demanderait quoi? vous savez pas bien. Mais Salomon a demandé. Il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. La sagesse pour savoir comment vraiment plaire à Dieu. Et cela a plu à Dieu. Il a dit à Salomon, je ne cite pas maintenant, il dit, écoute, puisque tu as demandé la sagesse pour me servir, pour aimer le peuple, pour aider le peuple, pour aimer, pour aider le peuple, je te donnerai tout ce dont tu as besoin sur le plan physique. Voilà. Nous avons tous des responsabilités dans la vie. Vous savez quoi? La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, nous blâmons quelqu'un d'autre pour nos faiblesses. Pour nous malons, nous blâmons quelqu'un d'autre parce que nous avons commis une faute et nous mettons la faute sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Et même souvent, nous blâmons Dieu. J'ai vu tellement de gens qui se plaignent en disant que Dieu ne les a pas bénis, que Dieu n'a pas donné ce qu'il a donné à d'autres personnes. Non. Dieu vous a donné ce dont vous avez besoin pour arriver au but. C'est ça qui compte. Si votre but final, c'est le royaume de Dieu, et que Dieu vous donne les talents nécessaires, soyez en reconnaissance, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez pas besoin des millions, ou bien d'une richesse fantastique, ou bien d'une royauté, noblesse, mettons, pour arriver au but. À moins que vous soyez appelé lorsque vous avez de telles choses. Si même vous n'avez rien, vous avez de quoi avancer pour arriver au but. Et c'est tout ce qui compte. Donc, l'une des règles principales, je dirais indispensable, cessez de blâmer les autres pour ce qui vous arrive ou ce que vous ne pouvez pas faire. Et surtout, cessez de blâmer Dieu. Ça, c'est très important. Proverbes, chapitre 8, verset 34. Heureux l'homme, quoi, qui m'écoute. Voilà, c'est simple. Ce que je vous dis ici, c'est Dieu. Je cite la parole de Dieu. Alors, Dieu vous dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui écoute la parole de Dieu et qui veille chaque jour à ses portes, autrement dit, être sur vos gardes. Je vous ai souvent parlé de zèle. Et soyez zélés pour Dieu. Soyez tellement joyeux que vous pouvez servir Dieu. C'est ça qui compte. Ayez cette joie d'être dans l'Église de Dieu ou dans le groupe de ceux que Dieu appelle, dans ceux qui sont le peuple de Dieu. Proverbe 8, 34. Et qui en garde les poteaux, autrement dit la base, qui se solidifie. La Bible, c'est notre manuel de vie. La Bible, c'est le manuel dont nous avons besoin pour marcher chaque jour dans la voie divine. Proverbe 28, verset 14. Heureux. Je commence à m'habituer à ce mot. Heureux l'homme, heureux l'homme. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement, pas de temps en temps, dans la crainte, c'est-à-dire dans le respect, l'obéissance envers Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur, autrement dit, ce que font la plupart des gens, qui n'entend pas, qui n'écoute pas, mais celui qui endurcit son cœur, dit-il, tombe, quoi, dans le malheur. Donc, voilà une révélation peut-être déplaisante, parce que lorsque il vous arrive quelque chose, un malheur, vous cherchez, comme j'ai dit, à blâmer quelqu'un, plutôt que de dire « qu'est-ce que j'ai fait qui déplaise à Dieu ?» Vous tombez dans le malheur la plupart du temps, si ce n'est pas toujours, c'est à cause des péchés que vous avez commis, vous, et non pas quelqu'un d'autre. Si, il peut y avoir des exceptions, mais ces exceptions sont rares. C'est nous et nous seuls sommes responsables des malheurs qui nous arrivent, surtout lorsque nous sommes proches de Dieu. Dieu veillera à ce que rien de mal ne nous arrive qui nous empêcherait d'entrer dans son royaume. Proverbe, donc chapitre 28, verset 14. Dieu vous dit, si vous endurcissez votre cœur, vous tombez dans le malheur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de continuer. Je vais terminer, si possible, encore aujourd'hui. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire révélation divine, le peuple est sans frein. Et c'est ce qui s'appelle, aujourd'hui, je dirais, ignorance. Il n'y a pas, aujourd'hui, de révélation divine parce que les gens ont fermé la Bible. Chacun pense connaître l'avenir. Vous avez toutes sortes de charlatans qui vous prédisent l'avenir. La seule façon de prédire l'avenir, c'est de laisser Dieu parler dans la Bible. Et vous verrez que ce faisant, vous saurez ce qui va se passer. Heureux l'homme, Proverbe 28, verset 9. Heureux l'homme s'il observe la loi divine. Ça se répète, certes, mais en même temps, c'est vraiment la base même de la compréhension. Pourquoi est-ce que Dieu a béni Abraham? Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui bénis à cause d'Abraham? Genèse chapitre 26, versets 4 à 5. Dieu a dit au fils d'Abraham, à Isaac, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes ces nations de la terre seront bénies en toi. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. » Voilà. Voilà comment on peut être heureux. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé, quoi ? Mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. C'est simple et c'est difficile. Les lois divines sont groupées dans les 10 commandements. Les dix commandements n'ont pas été donnés par Moïse. Moïse les a répétés au peuple. C'est Dieu et Dieu seul qui a donné les 10 commandements. Et pourtant, beaucoup de gens aujourd'hui rejettent les 10 commandements. Voici encore ce que Dieu dit dans Ésaïe, toujours dans l'Ancien Testament. Ésaïe 56, versets 1 à 2. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. » On parle toujours d'être heureux, voyez-vous, ou bien qui c'est que l'homme. « Ainsi parle l'Éternel. » Ésaïe 56, versets 1 à 2. « Observez ce qui est droit aux yeux de Dieu. Pratiquez ce qui est juste aux yeux de Dieu. Car mon salut, dit l'Éternel, ne tardera pas à venir. » Et ma justice à se manifester. Mes frères et messieurs, prenez ce verset vraiment à cœur. La justice divine, la bonté de Dieu, en toute occasion, se manifeste si vous êtes proche de lui. Verset 2, Ésaïe 56. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure éternellement. Ensuite, tout un coup, Dieu revient sur le sabbat parce que le sabbat contient le secret même du plan divin. Des gardant le sabbat, verset 2, Ésaïe 56, gardant le sabbat pour ne point le profaner, veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Pourquoi Dieu met-il l'accent sur le sabbat? Et pourquoi les hommes rejettent le sabbat? Dieu met la main sur le sabbat car le sabbat révèle le plan divin, le millénium où le Christ sera sur cette terre, le chef, le Dieu, celui le seul que les gens vont adorer. Donc le sabbat nous montre l'avenir merveilleux que Dieu promet. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens rejettent ce verset. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que vraiment le plan divin. Dieu dit, observez mon sabbat, ne le profanez pas. En veillant, dit-il, sa main, dit-il, pour ne pas commettre des malheurs, pour ne commettre aucun malheur. Je répète, souvent nous nous endurcissons le cœur. Nous nous endurcissons notre esprit. Nous savons une chose, nous trouvons des petits trucs, des petites idées, des petites choses qui nous permettent de comprendre que non, on n'a pas besoin vraiment de faire les choses à la façon divine. Et que notre façon divine n'est pas si mauvaise que cela. Voilà comment raisonne l'esprit humain. En vous-même, vous avez raison, vous dites, c'est juste, ce que j'ai fait, c'est pas mal parce que j'ai fait ce que Dieu demande. Non. Vous vous trompez vous-même. Nous faisons des excuses, nous présentons des excuses. Le fait est que Dieu connaît notre cœur, certes, mais Dieu veut que nous ne fassions pas de compromis avec lui. À travers la Bible, je répète, Dieu nous dit comment être heureux à sa façon, comment jouer de la vie à sa façon, comment apprécier les choses à sa façon. À travers la Bible, vous pouvez voir cette différence entre la façon divine de demander une chose, de vouloir avoir quelque chose, et la façon humaine de le demander. Dans toute chose, comme Dieu nous recommande d'avoir des choses, cette façon est toujours meilleure que notre propre façon. Une fois que vous comprenez cette vérité élémentaire, vous serez heureux. Vous aurez le cœur joyeux. Vous vous lèverez le matin, le cœur joyeux, avec plein de reconnaissance, même si vous êtes malheureux, même si vous êtes pauvre. Vous savez que le lendemain, il y aura du soleil spirituel. Il y aura le retour du Christ. Et que vous serez, vous, un rien, un souffle, comme nous autres, dans le royaume de Dieu, en tant que fils spirituel de Dieu. La Bible dit souvent, elle dit, ne vous endurcissez pas le cœur. Et souvent, nous nous endurcissons le cœur. Dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si j'ai le temps, mais si je n'ai pas le temps, je continuerai la prochaine fois avec un sujet différent. Dans le Nouveau Testament, nous avons les mêmes enseignements un peu différents dans le sens que Dieu nous donne le sens spirituel des lois physiques. Chaque loi physique, les 10 commandements sont en quelque sorte spirituels et physiques, mais le peuple ancien ne pouvait pas vraiment observer parce que le peuple ancien n'avait pas cette compréhension. Donc, lorsque Dieu a dit dans le Nouveau Testament, tu ne tueras pas, c'était physique. Mais il ne comprenait pas que même en disant des mots qui seraient des mots qui font du mal aux autres, que lorsque nous nous fâchons contre notre frère, nous commettons un péché qui revient à tuer notre prochain. Donc, c'est ça la différence. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, je répète, j'espère que vous comprendrez, que vous soyez dans l'Église ou non, c'est seulement l'Ancien Testament vous donne, en gros, en principe, les commandements de Dieu dans la lettre. Le Nouveau Testament reprend les mêmes commandements. Il ajoute à ses commandements la partie spirituelle. Il n'y a pas de différence entre adorer Dieu, ne pas avoir d'autre Dieu, que adorer comme les gens font des idoles. L'un, c'est la façon divine d'adorer Dieu, c'est de se débarrasser des idoles. La façon humaine d'adorer Dieu, c'est d'accumuler des idoles, autrement dit, des possessions matérielles. Vous voulez une belle voiture, beaucoup d'argent, un beau travail, ce n'est pas mauvais. Mais si vous mettez l'accent sur cela, vous n'honorez pas Dieu. Une fois que vous comprenez cette différence, mes frères et mes sœurs, que vous soyez dans l'Église de Dieu ou non, ça n'a pas d'importance, une fois que vous comprenez cette différence, vous saurez ce que c'est que l'Ancien Testament, les commandements de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les commandements du Nouveau Testament. Et pourtant aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de gens, même des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, rejettent cette simple vérité. On parle de l'Ancien Testament comme étant des lois abolies. Mais c'est la folie. Une loi divine ne peut pas être abolie car tout ce que Dieu fait est permanent, éternel, dans le domaine spirituel. Les lois divines sont éternelles. La bonté de Dieu est éternel. Les commandements de Dieu sont à jamais. Nous respectons aujourd'hui les uns les autres. Nous respecterons demain les uns les autres. Nous respecterons dans le royaume de Dieu les uns les autres à tout jamais. Nous respectons aujourd'hui l'éternel Dieu. Nous respecterons demain l'éternel Dieu. Nous respecterons l'éternel Dieu à tout jamais. C'est ça la base. C'est ça la révélation divine. Et respect Dieu, craindre Dieu, aimer Dieu, vous met sur un chemin qui vous mène à la vie éternelle, dans la joie éternelle. La Bible parle souvent de joie éternelle. Une joie qui ne peut pas être comprise de la façon humaine parce que nous n'avons pas l'esprit de comprendre. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je vous dis une chose. À travers mon ministère, j'ai vu beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Mais ils ne savent pas comment chercher Dieu. Ils veulent chercher Dieu ailleurs que dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Ils veulent chercher Dieu en faisant leur propre volonté, ils ne trouveront pas Dieu. Ils veulent chercher Dieu en faisant des compromis. Si vous faites des compromis, vous n'arriverez pas à trouver Dieu. Dieu se révèle dans la Bible en disant que, quel est le premier commandement? Il dit, je suis l'Éternel Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, ayez ça en tête. En toute chose, demandez-vous, est-ce ce que Dieu veut ou est-ce ce que je veux? Est-ce vraiment mettre un Dieu devant la face de l'Éternel? Aujourd'hui, malheureusement, de par le monde, les gens suivent la voie de la convoitise. La voie de la convoitise s'oppose à la voie divine. La voie de la convoitise rejette Dieu. La voie de la convoitise ne met pas Dieu en première place. Voilà où nous en sommes. Regardez les journaux, regardez les annonces que vous avez, regardez la publicité. Tout est convoitise, convoitise, convoitise. Ce faisant, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se détournent de Dieu et automatiquement qu'ils suivent la voie de la convoitise, qu'ils rejettent Dieu. Et pourtant, ce sont des gens chrétiens, entre guillemets, des gens qui vont à l'église chaque semaine, des gens qui disent qu'ils font des prières, chaque jour peut-être, mais ce faisant, ils mettent quand même des idoles, de faux dieux devant la face de l'Éternel. Voyez-vous, je dis, j'ai eu des gens, surtout en France, lorsque j'étais là, je voyais des gens qui sont vraiment sincères dans leur façon de penser, qui vont à l'église, qui s'agenouillent dans des bancs et qui demandent à Dieu. J'ai vu même des mamans qui pleuraient. J'ai vu en Montréal des gens qui montaient à genoux les escaliers pour aller au temple. Bon, l'intention est bonne. Les désirs sont bons, mais pourquoi ne pas approfondir ces désirs? Pourquoi ne pas vraiment approfondir vos désirs de chercher Dieu en ouvrant votre Bible et en faisant ce qu'il vous dit? Ce faisant, vous avez une garantie absolue que vous êtes sur le bon chemin. L'autre, c'est fondé sur les efforts humains. Certes, Dieu apprécie vos efforts. Dieu apprécie ce que vous faites. Mais le fait est que vos efforts doivent être fondés sur la vérité. Un jour, je me rappelle, j'étais en Suisse et je faisais une conférence publique et mon sujet était justement la santé. Alors, voilà un sujet fantastique. Aujourd'hui, nous avons énormément de gens qui sont malades à cause de ce que nous mangeons, de ce que nous vivons, de ce que nous respirons, à cause du stress, si vous voulez. À l'époque, il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai fait cette conférence publique en Suisse, j'ai parlé de la santé. Et j'ai donné donc, selon la Bible, les instructions divines. J'ai dit que dans la Bible, il y a des chapitres dans l'Ancien Testament. Vous savez, une fois que vous dites dans l'Ancien Testament, les gens se méfient. Je dis, il y a des chapitres dans l'Ancien Testament où Dieu vous dit ce que vous ne devez pas manger en ce qui concerne chair animale. Il y a certains animaux dont la chair n'est pas pure. Il y a certains oiseaux dont la chair n'est pas pure à manger pour nous autres humains. Il y a des poissons ou des créatures aquatiques dont la chair n'est pas pure à manger. J'ai expliqué. J'ai aussi expliqué la façon comment il faut prendre soin de son esprit, ne soyez pas négatif, tout ça. Tout allait bien. Jusqu'au moment où j'ai abordé le texte en disant que Dieu a dit que le porc, la chair de le porc n'est pas bon à manger. Il fallait voir. D'une façon générale, comme vous savez, les gens mangent du porc facilement. Et quelqu'un dans la salle dit, là, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas une question d'être d'accord avec moi, je vous cite la Bible. Non. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est pour les Juifs. J'attendais. Dès que vous entrez dans les Juifs, alors là, je peux me défendre. Je dis, y a-t-il un médecin dans la salle? Heureusement qu'il en avait un. Et il s'est levé, je dis, docteur, je dis, y a-t-il une différence entre l'estomac juif et l'estomac chrétien? Si la Bible dit qu'il ne peut pas manger du porc, c'est un juif, et que nous, les chrétiens, nous pouvons en manger, il doit y avoir une différence entre l'estomac juif et l'estomac chrétien. Et de moi, le médecin Harry dit non, absolument pas. Alors, quelle était la réalité? J'ai fait des études pour voir si humainement on peut expliquer cela. Faites vous-même une expérience. Allez faire des recherches. La chair du porc, Dieu sait que cette chair n'est pas bonne pour notre santé. D'abord, c'est trop gras. Ensuite, ce n'est pas vraiment pour notre santé, pour notre salut physique. Voilà pourquoi Dieu nous dit que cette chair n'est pas bonne. Si les gens faisaient un petit effort pour mieux comprendre, ils n'auraient pas cette tendance à rejeter tout ce que Dieu dit. Prenez le sabbat. Combien de gens en France ont perdu le travail dans l'Église parce qu'ils observaient le sabbat de Dieu? Parce que le patron ne voulait pas lâcher un employé le jour du sabbat. Et pourtant, Dieu a dit, tu observeras ton sabbat. Pourquoi? Dieu sait que nous avons besoin d'un repos. Si tous gardaient le sabbat, physiquement parlant, nous aurions un monde différent. Je connais des gens, je répète, qui ont perdu leur travail à cause du sabbat parce qu'ils voulaient observer le jour du sabbat. Et pourtant, ils ont été bénis en fin de compte. Certes, ils ont passé par des moments difficiles, par une expérience. C'est ça qui est important. Si même vous souffrez pendant quelque temps parce que vous obéissez à Dieu, restez ferme, restez solide. Regardez le Christ. Il a souffert, il a été persécuté, il a été crucifié. Et pourtant, il est resté solide, il dit, « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Le Christ a dit que si Dieu est avec lui, personne ne peut lui faire du tort. Je paraphrase. C'est notre attitude à nous tous, mes frères et mes sœurs. Nous sommes dans l'Église de Dieu. Nous adorons Dieu. Nous avons confiance. Nous faisons confiance à Dieu. Chacun des 10 commandements est une garantie pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que l'observance des commandements nous garantisse le salut, pas du tout. L'observance des commandements nous met dans la bonne attitude, nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, vous prenez le Nouveau Testament, comme je vous ai dit, et laissez-moi au moins prendre un verset du Nouveau Testament, et je tâcherai peut-être de prendre le sujet de... Je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir le sermon sur la montagne, verset par verset, mais regardez ce que un passage du Nouveau Testament nous dit. Dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, verset 22, c'est le Nouveau Testament. Heureux, ça commence. Heureux l'homme. Heureux êtes-vous. Heureux serez-vous. Alors, Luc 6, 22. Heureux serez-vous. C'est Dieu qui parle. C'est le Christ qui parle. Lorsque, quoi? Lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera. Lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Ça, c'est le manque de phrase qui est indispensable. Nos châtiments, nos punitions du point de vue humain, c'est ça, à cause de Dieu, nous serons heureux, nous serons bénis. Mais la plupart du temps, je répète, nous sommes châtiés non pas à cause du Christ, à cause de nos convoitises, à cause de nos sentiments charnels. Nous voulons faire notre volonté, nous voulons avoir tout, sans pour autant déplaire à Dieu. Vous n'y arrivez pas. Reprenez ce sermon que j'ai fait aujourd'hui et la dernière fois, si vous avez pris des notes, ou bien prenez une concordance, cherchez dans cette concordance chaque fois que le mot « heureux » l'homme arrive. Sachez que « heureux » du point de vue divin. Sachez que « heureux » c'est lorsque vous aurez le cœur tranquille, malgré les souffrances, malgré votre solitude, malgré votre vieillesse, malgré tout, vous serez heureux parce que la vie ici-bas n'est qu'un souffle. Une fois que vous saisissez cela, vous changerez votre attitude. Vous aurez du plaisir à vivre. Vous aurez de la joie dans le cœur, même si les choses ne vont pas bien. Vous saurez que le lendemain, le soleil se lèvera, non pas le soleil physique, mais le soleil spirituel. Vous saurez qu'un jour, vous serez enfant de Dieu éternellement. Vous n'aurez plus cette souffrance sur cette terre. Vous n'aurez plus cette tendance humaine. Vous aurez les tendances divines. Et comme le Christ a dit, alors qu'il souffrait sur cette terre, il n'est pas seul. Le Père est toujours avec lui. Avec cette attitude, mes frères et mes sœurs, avec ces sentiments, vous comprendrez ce que c'est que la Bible. Et qu'il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et qu'il n'y a pas de différence entre les lois divines dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et qu'il n'y a aucune différence entre aucune nation, aucun peuple. Dieu aime tout le monde. Dieu aime toutes les nations, sans exception. Mais il faut que toute la nation, que tout le monde, tous les hommes délaissent leur voix, leur propre voix, se tournent vers Dieu, qu'ils obéissent à ses commandements et qu'ils marchent avec lui, comme ont marché ceux que Dieu a appelés en tant que ses prophètes. Et vous faites partie de ce groupe. Prenez ce sermon à cœur. Vraiment, mes frères et mes sœurs, nos souffrances ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Mais soyez sûrs de ne pas blâmer quelqu'un d'autre pour vos propres souffrances, de ne pas même blâmer vous-même s'il le faut. Changez d'attitude, marchez avec Dieu, marchez tout le temps dans toutes les décisions que vous prenez. Et si vous pouvez vraiment dire que vous êtes enfant de Dieu et que vous faites sa volonté, vous serez vraiment, vraiment heureux à tout jamais.